Oui, bonjour, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver pour notre émission La Réunion des Religions. Et encore une fois, j'ai un studio avec qui, dans lequel j'ai plaisir à être encore aujourd'hui, parce que j'ai les trois copains maintenant, les trois amis. J'ai le père Payette qui est à ma gauche. Bonjour, bonjour mon père.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va.
Ça va ? Tranquille oui. Aujourd'hui ? Ensuite j'ai, ensuite, j'ai mon ami Mendel. Bonjour, Mendel.
Bonjour.
Content de te revoir.
Merci, moi aussi.
Oui.
Toujours un plaisir.
Ah, bah, ça fait plaisir d'entendre ça. Et puis, à ma droite, j'ai notre imam de service, monsieur Mohamed Ban.
Bonjour.
Comment ça va, Mohamed ?
Ça va.
Ouais. Ça va. Bon, aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, je sais que le vendredi, ouais, c'est des jours un petit peu compliqués
chez
nos amis les Juifs et chez notre ami imam qui va faire sa
même
grande prière.
Monsieur le curé va faire la messe aujourd'hui, apparemment, vendredi.
Ouais, il y a une grande messe prévue ce soir. On en reparlera dans un petit instant. Donc, on a une actualité assez riche. Parce qu'on est passé par Pâques, on est passé par le Carême. Et puis, cette fois-ci, l'actualité fait que lundi, mon père, donc là je m'adresse à toi, je dis tu, parce qu'on se connaît depuis. Donc le pape est décédé. Et donc ça a été un événement mondial, international. Et nous avons la chance, j'ai la chance d'avoir père Payette, qui va nous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Puisque si je ne me trompe pas, c'est demain qu'on va l'enterrer. Et voilà, donc ça serait bien que tu nous expliques de façon à savoir est-ce que c'est la même chose lorsqu'on enterre un pape ou est-ce que, par rapport à un enterrement d'une personne lambda ou même d'un curé. Je veux dire, comment ça va se passer demain ?
Je ne suis pas spécialiste des enterrements de pape, donc j'avoue que je n'ai pas trop réfléchi à la question.
Oui.
Et puis de toute façon, ceux qui regarderont la cérémonie demain s'en rendront bien compte. Mais grosso modo, c'est la même chose, le rite des funérailles, quel que soit un laïc, un fidèle laïc, ou un prêtre, ou un évêque, ou même le pape, ne change pas. C'est juste qu'il y aura un peu plus peut-être de protocoles, de fastes, je dirais, liés aussi à la célébration, même si le pape François a souhaité quand même, de ce que j'ai compris, quand même assez de simplicité, et lui-même, déjà dans l'exposition, la manière dont il sera enterré, eh bien, il a souhaité que ce soit assez dépouillé, assez simple finalement, qui correspond tout à fait à son tempérament et au message qu'il a voulu transmettre pendant son pontificat. Et tout au long de sa vie, finalement, même en tant qu'évêque.
Donc, est-ce qu'il y aura ce qu'on peut dire deux messes, une pour tout le monde quand il va venir ? Et est-ce qu'on aura une après ou un événement ou quelque chose au moment où on va le mettre en terre ? Comment ça va se passer ? Après, c'est simple, il me semble. Je sais pas.
Alors, comme messe, il n'y aura qu'une seule messe de funérailles à proprement parler. Après, il y aura la mise en terre. En l'occurrence, ici, ce sera. Il a souhaité être inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure, qui est une des quatre basiliques majeures de Rome, il n'a pas souhaité être inhumé dans la basilique Saint-Pierre au Vatican, mais à l'extérieur, dans cette basilique, qui est toujours dans le cœur de Rome même. Et comme d'autres papes avant lui, il y en a, je crois qu'il va être le dixième pape à être enterré là. Enfin, je ne sais plus, en tout cas,
c'est quand même une basilique qui est appréciée par les papes. Alors.
Oui. Et puis, c'est, comme je disais, c'est une des grandes basiliques qu'on visite généralement quand on va à Rome. Et donc, voilà, il a souhaité être enterré là-bas. Donc, les funérailles vont se dérouler très simplement avec tout le rite de la lumière, de l'encensement, du dernier adieu, après la lecture, après aussi la célébration eucharistique probablement. Et puis ensuite, il y aura l'inhumation et toutes les prières qui vont accompagner le lieu de sa dernière demeure terrestre, je dirais. Voilà.
Et ensuite, une fois qu'il sera enterré, il y a ce qui va se mettre en place, ce qu'on appelle le conclave. C'est une sorte de... ça va être où ? Ça va être à Rome ? Ça va se passer rapidement ? Ça va se passer comment, ce conclave-là ?
À partir du moment où le pape est décédé, l'Église est en deuil pendant 9 jours pour célébrer dignement les obsèques et vivre le deuil finalement du pape. Et ils ont ensuite, à partir du moment où le pape est décédé, ce qu'on appelle le siège apostolique est vacant. C'est des vacantes. Et donc, ils ont 15 jours pour que tout le monde puisse venir à Rome, tous les cardinaux électeurs, pour se rassembler. Et jusqu'à 20 jours pour débuter le conclave.
Entre la mort et l'élection.
Voilà, c'est ça, entre la mort.
Entre l'annonce du décès et le.
Et le début du conclave, il y a 15 jours minimum, ça peut être un petit peu avant s'ils anticipent, et maximum 20 jours pour débuter le conclave, donc on fait le compte. Hein. Et par conséquent, le conclave se déroule depuis la fin du 19e siècle à Rome. Et dans la chapelle Sixtine, qui est une des chapelles.
Ah, c'est dans la chapelle Sixtine.
Voilà,
la fameuse
chapelle Sixtine. On connaît cette très belle fresque.
Ouais, c'est
Dieu
beau.
Et là-dedans, voilà, lors de la création. Mm-hmm. Voilà. Mais c'est dans cette chapelle Sixtine qui sera fermée, évidemment, aux visiteurs, et que se déroulera le conclave. Conclave, ça veut dire cum clave, ça veut dire avec clé. C'est une pièce fermée. Donc, l'idée étant que, depuis le milieu du 1254, il me semble, un des papes avait souhaité que. Pour éviter les ingérences politiques, que tout se passe dans le secret. Et que les cardinaux électeurs, au nombre de 120 maximum, et à tous âgés de moins de 80 ans, pour pouvoir être électeurs, eh bien, ne sortent pas de la chapelle et ne soient pas influencés par les différentes médias. Donc tout se passe dans le dépouillement, loin de tout appareil d'enregistrement, pour garder le secret et ne pas distraire les cardinaux dans ce temps de prière avant tout et de discernement du futur souverain pontife.
Donc on peut compter qu'il y aura un nouveau pape la semaine prochaine, on va dire. Ça devrait être fait.
Alors, si l'élection se déroule, il y a quatre votes par jour, deux le matin et deux l'après-midi. Donc si le prochain pape est élu dès le premier tour, ça va très vite.
Ouais.
Si ça prend du temps,
la fumée noire,
ça peut.
De quoi ?
La fumée noire.
Alors quand à l'issue du vote, lorsque ils ont, si on passe au deuxième vote, on attend le deuxième vote pour brûler tous les bulletins, et à ce moment-là, si la fumée est noire, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à obtenir la majorité des deux tiers.
Donc il y aura deux choses. Il me semble qu'il y aura la fumée et le glas, c'est ça, non ?
Alors, le glas, ça concerne plutôt le décès.
Ah, d'accord.
C'est les funérailles, c'est normalement c'est un signe de deuil. Donc, les cloches sont vraiment mises à part. Peut-être qu'à ce moment-là, ils sonneront les cloches plutôt de la volée, plutôt quelque chose de plutôt...
Des cloches avec un
Mais
ton joyeux.
Ce qui vraiment marque l'élection du nouveau pape, c'est la fumée blanche. Voilà.
Ah, pourquoi blanche ? Pourquoi
c'est
ça ?
Signe de voilà, la lumière, la joie. On passe de quelque chose qui a raté ou qui est encore en cours, et puis à quelque chose de nouveau. Quoi.
Ouais. Bien, ben merci mon père. On va revenir vers toi dans un instant. Et donc je vais venir un petit coup vers mon ami Mohamed.
Non, mais j'étais tranquille.
Ah, bah t'es tranquille. Excuse-moi de te réveiller. Le ramadan est fini.
Oui.
Enfin, le mois de ramadan. Parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame entre le mois de ramadan et le jeûne. C'est-à-dire que ramadan, c'est bien un mois.
Oui. Alors, voilà. Il faut savoir qu'on peut jeûner de manière surérogatoire, c'est-à-dire complètement bénévole, on va dire en guillemets, le reste de l'année. D'ailleurs, dans la tradition prophétique, le lundi et le jeudi, c'est bien de jeûner. Et les trois jours blancs, c'est-à-dire... Donc 13, 14, 15 de chaque mois lunaire islamique, hein, pas le calendrier grégorien. Donc ça correspond à peu près aux phases de la pleine lune. Voilà, donc ça c'est pour les jeûnes surérogatoires. Effectivement, le ramadan c'est une obligation, c'est un des piliers de l'islam. Donc voilà, c'est un peu différent.
Alors, pendant ce mois de ramadan, c'est obligé, tout le monde jeûne. Est-ce qu'il y a des exceptions, on va dire
Effectivement, ceux qui ne peuvent. Donc, faut savoir que Dieu, dans le sens général du terme, il ne va pas imposer à un être humain, à sa création, quelque chose qui est plus lourd que soi à porter, ou bien quelque chose totalement d'inhumain finalement. Donc, si quelqu'un est malade, ou bien il n'est pas pubère physiquement. Ou bien, tout simplement, il ne peut pas jeûner, il ne jeûnera pas. Bien sûr, il y aura des compensations, si c'est possible, à faire. Donc, voilà. Donc, ceux qui ne peuvent pas jeûner ne le feront pas. Et n'auront pas de péché, bien entendu. Par contre, si on est en bonne santé et qu'on veut se taper un petit café le matin, là, je pense qu'il y a un petit problème. Hein,
Donc pendant ce mois de Ramadan, il y a la journée où on jeûne. Et il y a un moment où on va rompre le jeûne. Ça correspond à quelle heure et on fait quoi à ce moment-là ?
Donc on débute à l'aube, donc ça s'appelle le Subh al-Sadiq. Donc c'est à peu près, on va dire, 1h30 avant le lever du soleil. Et c'est au coucher du soleil qu'on va rompre le jeûne. Donc c'est ça, une journée de jeûne en fait, tout simplement.
Et le soir, oui. Il me semble qu'il y a, après la dernière prière du soir, qui s'appelle Isha. Bien ça.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe après ? Parce que ça, c'est le genre de choses que nous, les gens ne connaissent pas. Qu'est-ce qui se passe après la prière, la grande prière du soir ?
Donc, il faut savoir que déjà, quotidiennement, il y a 5 prières. Donc, le matin, midi, fin d'après-midi, début de soirée, la nuit. Donc, dans le mois de Ramadan, la particularité, c'est la prière du Tarawih. Donc, le Tarawih, c'est 20 unités de prière supplémentaires où une complétion complète du Coran minimum du Coran sera faite pendant le mois. Donc ça dépend vraiment des personnes, mais dans tous les cas, dans les lieux de culte où il y a vraiment beaucoup de personnes, on va se limiter à un Coran pour le mois entier en fait. C'est un chapitre par soir. Donc parmi les 30, c'est un chapitre par soir à peu près.
D'accord.
Par contre, il y a des gens et qui le font par exemple en 5 jours, après ils refont tous les 5 jours, il y en a qui le font tous les semaines.
Ils font la lecture du Coran en 5 jours.
Oui, complète dans cette prière-là.
D'accord.
Donc il y en a qui le
ça
font.
Ça va vite alors. Ça va...
Oui, c'est long surtout.
Ça
hein,
va, ça
donc
long,
déjà là, on a à peu près à 2 heures de temps.
Oui.
Je sais pas, je crois. Mais c'est bien, c'est tout à l'heure. Mais dans les lieux de culte, c'est vraiment rassembler le maximum de personnes. S'il y a des gens qui sont vieux, malades, etc., qui travaillent le lendemain, donc ils viennent vraiment à la mosquée. Donc les autres, on va dire, c'est les pros plus. Voilà.
Alors, nous avons eu aussi, pendant ce temps, le mois de carême. Le mois de carême. Et est-ce que je vais me retourner vers Mendel maintenant, parce qu'il faut quand même qu'il vienne parler un petit peu, notre copain rabbin là. Vous avez eu Pâques.
Pessah.
La Pâque juive, Pessah. Voilà.
C'est ça.
Alors, ça a duré combien de temps? Parce que je ne sais pas exactement si vous avez fait du. Est-ce que vous jeûnez? Parce que Pessah, c'est religieux et en même temps, c'est une autre histoire par rapport à.
C'est une fête religieuse qui est écrite dans la Torah. C'est d'ailleurs la première fête dans la Torah. Il n'y a pas de jeûne spécifique à faire pendant cette fête. Il y a des interdictions, beaucoup d'interdictions.
Ah ben voilà, ça
sur les aliments.
Vous n'avez pas le droit de faire quoi
Alors, c'est une fête donc, qui dure 8 jours.
Pendant 8 jours, vous dansez, vous chantez.
Exactement.
C'est vrai.
Non.
Non,
c'est une fête religieuse, donc bien sûr qu'il y a de la joie, il faut profiter. Etc. Mais c'est surtout on commémore quelque chose, donc la Torah elle donne quelques principes, c'est que pendant 8 jours, et alors c'est 8 jours en diaspora et 7 jours en Israël, parce que là-bas il y a un jour de moins, on a l'interdiction de manger tout ce qui est du levain, du pain, donc tout ce qui a gonflé, quand on met de l'eau, de la farine, tout ce qui gonfle on n'a pas le droit de manger, donc ça fait beaucoup d'interdits, on n'a pas le droit d'en consommer. On n'a pas le droit d'en posséder à la maison.
Ah, posséder.
Et j'ai pas
aussi.
Le droit d'en voir chez moi. Voilà.
D'accord.
Donc, ce qui fait que, en fait, la fête, elle commence déjà un mois avant, quand il faut tout nettoyer la maison, enlever tout le levain, le finir.
La farine du blé, tout ça, il faut pas, parce que.
La farine en soi, il n'y a pas de problème, mais si elle est mélangée avec de l'eau, c'est un problème.
Ah, parce que ça risque de gonfler.
Exactement. Donc, la Torah, elle nous dit qu'on doit manger des galettes. Des galettes, c'est aussi de la farine et de l'eau.
Oui.
Mais qui n'a pas gonflé.
Mais pas, qui n'est pas gonflé.
Donc voilà, on la met au four. En fait, les sages ont considéré, c'est scientifique, mais à partir de 18 minutes où on a assemblé l'eau et la farine, jusqu'à 18 minutes, ça ne gonfle pas. À partir de 18 minutes, c'est là où ça va commencer à gonfler.
Okay,
la bactérie va faire gonfler la pâte. Donc, on a 18 minutes maximum pour mettre la pâte au four. Et du coup, ça donne des galettes.
Elles s'appellent comment ces galettes-là ?
Ça s'appelle matzah.
Matzah.
Voilà,
matzah. C'est bon ça ? C'est assaisonné, c'est sucré, ben, salé.
Non,
c'est...
justement, non. La Torah appelle ça le pain du pauvre. Donc, on ne met pas de sucre, pas de sel, rien. C'est que de l'eau et de la farine. Et tout de suite au four. Et on mange ça pendant une semaine.
Ouais.
Après, on peut manger tout le reste. Poisson, viande, enfin,
vous
légumes.
Vous accompagnez votre...
Voilà.
Comment tu disais encore ?
Matzah.
Matzah, vous l'accompagnez de tout ce que vous mangez d'habitude.
Voilà, sauf, par contre, pas de pain, pas de biscuits, pas de crackers, pas de gâteaux.
Voilà. Bon, c'est quand même... Ça va, c'est pas...
Ouais, non, ça va.
Mais il faut les préparer. C'est qui prépare ça à la maison ?
Alors les galettes, on ne peut pas les faire à la maison parce que déjà, il faut un four tout neuf qui a été utilisé que pour ça.
Ah oui.
Si je prends mon four où j'ai fait le pain d'habitude,
D'accord.
Bon. Donc, c'est des endroits spéciaux. En France, il y a une grande usine qui en fait. Dans chaque pays, il y en a. Et donc, on achète les galettes. Nous, à La Réunion, on les fait venir.
C'est réalisé maintenant.
Bien sûr, oui, tout. C'est compliqué de faire à la maison. Déjà, il faut de la farine spéciale qui a été gardée, qui n'a pas eu de mélange avec de l'eau. Donc, c'est très compliqué à en faire. Donc, tout le monde en achète.
Donc ici, vous avez la possibilité... Est-ce que toi, tu en vends, monsieur le rabbin ?
J'en vends, alors je fais ma publicité en direct. Non, mais après, voilà, on fait venir pour la communauté.
Comme tu es dans la synagogue, vous devez avoir comme beaucoup un petit peu.
Oui, bien sûr, oui, on commande une bonne palette pour toute la communauté. Après, voilà, après, il y a plein de sortes de galettes, mais les principaux pour la fête, c'est ces galettes-là où il n'y a rien que de l'eau et de la farine.
Donc là, ça dure 8 jours pour vous, 7 jours à Jérusalem,
en Israël.
En Israël. Et pourquoi il y a cette différence d'un jour entre l'Israël et puis vous ?
Alors là, on rentre...
on dirait qu'on est dans la même situation.
Oui,
c'est-à-dire cherche la lune, c'est ça ?
Oui, par rapport à la lune, voilà. En fait.
Ah
c'est vrai
oui,
que...
d'accord.
Non, ouais. En fait, c'est historique. Il y a 2000 ans, quand le temple a été détruit, tout le monde faisait 7 jours. Mais à ce moment-là, à l'époque, quand les témoins avaient vu la lune, un peu comme à la fin du Ramadan, quand les témoins vont chercher la lune, eh ben, à Jérusalem, ils prévenaient les autres villages et que la lune, on l'a vu la lune, que c'est bien aujourd'hui le premier jour du mois. Le problème, c'est que des fois, des villages lointains ne recevaient pas le message.
Et donc, ils
pensaient que peut-être c'est aujourd'hui le nouveau mois, peut-être c'est demain le nouveau mois.
Donc ils ne regardaient pas la lune ou bien si.
Non, mais il fallait recevoir le. Fallait que c'est que à Jérusalem, on pouvait décider que les témoins sont aptes à témoigner.
D'accord.
Et donc le message était pas reçu. Donc pour être sûr, ils faisaient 2 jours. Donc ils faisaient le premier jour, mais peut-être qu'en fait ce jour aujourd'hui c'est demain par rapport au premier jour du mois. Et finalement, de toute façon ça s'est arrêté. Et aujourd'hui on a un calendrier qui est préétabli déjà.
Pour, calcul astronomique donc.
Un calendrier lunaire, ouais. Qui est préétabli depuis 2000 ans, il a été fait, le même calendrier, avec tous les dates qui sont déjà établies. Mais pour garder ça en souvenir, eh ben, aujourd'hui, en dehors d'Israël, on fait à chaque fois un jour en plus, que ce soit pour Pessah, pour la fête de Sukkot, et la fête de Shavuot, c'est une autre fête aussi qui arrive bientôt.
On en parlera, parce que là, celle-là, je les connais moins. Donc là, on va continuer après une petite pause musicale et on reviendra vers le père Payet. Et là, on parlera du carême qui a duré 40 jours. On verra ça après avec lui.
Peu importe ce qui arrive à moi, l'île est la même, l'île a pas moins à dire. Il met tout dans son main, bonne mauvaise idée, bonne mauvaise guerre. Gramoun l'a toujours dit à moi. Pour avancer, pour quoi bondir? Appelle à Ali, comment ouvrir? Appelle à Ali, Allah. Appelle à Ali, Shiva. Ali, même là où va et là où sort d'un fracas. Appelle à l'IGE.
Réunion des religions, tous les derniers vendredis du mois sur Capital FM, de 11h à midi, animé et présenté par Fred.
C'est pas 11h midi aujourd'hui, c'est 10h-11h, exceptionnellement, hein, parce que bah, nous avons une émission spéciale, et donc comme il fallait réunir tout le monde au même moment, on a fait 10h-11h aujourd'hui. Donc j'ai toujours en ma compagnie le père Payette, monsieur le rabbin Mendel, et à ma droite, l'imam Mohamed Bana. Mon père, je reviens vers vous concernant Pâques, concernant le carême. Alors, une question que moi je me pose, pourquoi on appelle ça Pâques? C'est quoi Pâques? Ça veut dire quoi Pâques?
Pâques, ça veut dire passage en fait. Ça signifie pour nous à la fois le passage, on fait mémoire du passage de la mer Rouge, enfin, le passage plus largement, la sortie d'Égypte par les Hébreux, et ensuite symbolisé aussi très fortement par ce passage de la mer Rouge à pied sec, et le fait qu'ils soient ensuite libérés de l'oppression du Pharaon et des Égyptiens.
D'où Pessah pour les Juifs. Donc oui, finalement, les deux événements, bon,
C'est le même.
C'est la même chose, c'est le même événement.
Parce que juifs et chrétiens, nous avons.
Monsieur le rabbin. Bien sûr, oui. Pâques, c'est la traduction du mot Pessah en fait.
Oui, Pessah, c'est les musulmans, il y a Ashura.
Voilà. Ashura, c'est la traduction aussi de Pâques.
Voilà.
Oui, si on veut.
Donc,
si
donc
on
les trois religions se rejoignent là-dessus, voilà. Quoi, sur ce sujet-là. Ouais,
ouais. Ça signifie cela, mais pour nous, la Pâque chrétienne, elle prend une autre signification, puisque c'est aussi le passage de Jésus de la mort à la vie. Puisque nous avons célébré le Vendredi Saint, la mort de Jésus, qui pour nous chrétiens, nous l'avons reconnu comme étant le Messie, qu'attendent les Juifs. Nous l'avons reconnu comme le Messie, donc il est venu, il est mort. Et nous affirmons qu'au bout de 3 jours, le troisième jour, le dimanche de Pâques, eh bien, il ressuscite d'entre les morts, corps et âme, voilà. Oui. Et donc, et il apparaît à ses disciples. Et donc, c'est ce passage de la mort à la vie qui, pour nous, comme nous affirmons la divinité de Jésus, en même temps que son humanité, a une symbolique aussi du passage pour tout homme, aussi de la mort à la vie. Et quelque part l'annonce de la résurrection finale qui sera pour tout le monde, en fait.
Mmh. Et alors, il y a une messe pour la messe de Pâques. Donc, c'est quoi le rôle de cette messe? On y fait quoi? Enfin, je sais que c'est sur beaucoup de télé, etc., etc. Mais avoir ton impression, enfin, de ce que tu pratiques pendant cette messe-là, est-ce que y a des choses particulières que nous, on ne peut pas ressentir, qui sont faites ou dites pendant cette messe-là?
Les rites eux-mêmes sont parlants, puisque au cours de la grande veillée de Pâques, qui est la grande messe du samedi soir, dans la nuit de Pâques, en fait, nous célébrons donc la résurrection du Seigneur. Pour cela, nous commençons par le rite de la bénédiction du feu nouveau. Nous allumons un feu, juste si possible à l'extérieur, à l'entrée de l'église, devant l'église. Et le prêtre bénit ce feu pour signifier la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et ce feu, de ce feu, on va prendre la lumière justement. On va allumer le cierge, dit le cierge pascal, qui symbolise le Christ ressuscité, le Christ qui est la lumière.
C'est le cierge qu'on voit, qui est allumé tout le temps dans les églises.
Le grand cierge qu'on utilise pour les grandes fêtes, notamment pour les baptêmes. Voilà. Et on processionne dans l'église avec ce cierge, et le prêtre ou le diacre ou un chantre, va chanter l'annonce de la Pâque, de la résurrection. Ça s'appelle l'exultète. Si possible dans la pénombre, on aime bien le faire, en tout cas dans la pénombre. Oui. Et après, on allume les lumières pour les grandes lectures, une grande liturgie de lecture de la parole de Dieu à travers les récits de l'Ancien Testament que nous avons en commun avec nos frères juifs. Et puis aussi, on termine par quelques récits du Nouveau Testament, dont l'Évangile. Et à l'issue de cela, et après l'homélie du prêtre, il y a, quand c'est possible, là où c'est possible, il y en a eu dans notre église, par exemple, à la délivrance, nous avons eu 6 baptêmes d'adolescents ou d'adultes, et donc qui ont été baptisés ce jour-là, cette nuit de Pâques.
Pendant la nuit, là où tu as fait des baptêmes.
Voilà, un moment très fort, on a invoqué les saints, on a béni l'eau nouvelle, l'eau baptismale, et je les ai baptisés, et ils ont reçu, dans la mort et la résurrection de Jésus, donc c'est un peu ils sont devenus chrétiens officiellement.
C'est la symbolique aussi de la résurrection, enfin quand on est baptisé. Chez les Juifs, vous aussi, vous avez une cérémonie comme ça sur le baptême. Enfin, c'est pas un baptême, c'est
La circoncision.
La circoncision, mais ça c'est
pour les hommes.
Oui.
Voilà. Après, non, il y a le par rapport au baptême. Non, je vois pas. Pas vraiment.
Non. Et puis pour vous, les musulmans, vous avez un événement comme ça?
C'est pas un événement, c'est une reconversion, on appelle ça.
Ouais.
On peut le faire sous forme d'événement, mais souvent à la réunion, en tout cas, ça se fait vraiment dans l'intimité. Donc voilà.
Eh ben, dites donc. Alors, le carême. Je vais revenir un petit peu.
Je peux faire une petite parenthèse.
Oui, vas-y.
Donc, allez, non, parle déjà du carême, après.
Oui. Le carême, alors, ça dure. Carême, ça veut dire qu'on fait. Les catholiques, surtout, et les chrétiens, font, on va dire, une sorte de jeûne. Ils font un jeûne, ils ne mangent pas gras. C'est quoi ce mot carême là, qui dure 40 jours là?
Carême, ça vient du mot latin quadragesima.
Oui.
Il y a 40.
40.
40e jour.
Oui.
40e jour. Donc c'est le chiffre 40 dans la Bible, on le retrouve souvent. Les Juifs
chez les musulmans pendant, aussi, il y a les 40
voilà,
jours.
Prenons quelques exemples. Les Juifs ont erré pendant 40 ans dans le désert. Pour nous, Jésus a été dans le désert pour être tenté par le diable après son baptême justement pendant 40 jours. Et il n'a pas mangé, il a jeûné justement. Et au bout du 40e jour, il a été tenté. Enfin, on a du moins le récit des trois tentations dernières qu'il a subies et qu'il a vaincues. Donc pour nous, le carême, c'est vraiment un temps de pénitence, où on est invité à travers les trois dimensions que sont le jeûne, la prière et l'aumône, eh bien, à vivre une conversion, à se repentir de ses péchés, à renoncer un petit peu aux mauvaises habitudes qu'on a prises et se détourner de ses fautes pour se tourner vers Dieu et vers le prochain. Et à travers donc la dimension de la prière, du jeûne aussi, en se privant de... C'est pas un jeûne comme chez les musulmans toute la journée, nous c'est plus soft on va dire. Mm-hmm. C'est plutôt... Il y a deux jours de jeûne bien précis, au début du carême, le mercredi des cendres et puis le vendredi saint. Après, chacun fait un peu comme il veut. Il y en a qui ne mangent pas de viande, qui ne mangent pas de...
Des chocolats.
Pas de chocolat aussi, on essaie d'éviter un petit peu d'être plus soft aussi, voilà.
Ils ne boivent pas aussi, pas d'alcool.
Ça dépend, je dirais, là c'est vraiment c'est à la liberté de chacun.
C'est à la
liberté de chacun, ouais. Et à la libre appréciation de chacun. Et puis vraiment, voilà, cette dimension-là. Puis l'aumône, c'est-à-dire comment l'attention aux pauvres, aux petits, voilà. Nous avons à cœur voilà, de mettre ça en évidence.
Et puis pour finir avec Pâques, pourquoi les œufs, pourquoi le lapin?
Je vais poser la question.
La question de ne pas me poser, je ne connais pas.
Les cloches, alors. Au début, c'était des cloches, il me semble. C'était l'annonciation.
Je ne sais pas si c'est lié directement à ça, mais je vais donner une explication qui, pour moi, pourrait correspondre. C'est symboliquement, on sonne les cloches la dernière fois, le jeudi saint, qui est le moment où Jésus a institué l'Eucharistie. Voilà, la messe, si vous voulez. Son dernier repas avec ses apôtres, avant d'être arrêté le soir. Donc, on célèbre en grande fête les cloches à la volée. Mmh. Et jusqu'à la nuit de Pâques, le samedi saint, le samedi soir, eh bien, les cloches ne sonnent plus dans l'église pour signifier voilà, la dimension du deuil, parce que Jésus est mort, et voilà. Et donc, comme célébrons la nuit de Pâques sa résurrection, à nouveau, les cloches retentissent.
C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on allait peut-être chercher les cloches, et d'où la symbolique, la fête.
Oui,
ils vont
chercher à Rome.
Bien sûr. Je vois. Alors, nous revenons vers notre ami Mendel, parce qu'on a parlé du pain. Mais Pessa, ça a une autre histoire un peu plus complexe qui est partagée par les trois religions. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer
Alors, la fête de Pessah.
Oui,
comme j'ai dit, voilà, c'est la première fête du peuple hébreu, du peuple juif donnée par la Bible et par la Torah. Et c'est, le mot Pessah, ça veut dire sauter, passage. On célèbre donc le soir où le peuple juif est sorti d'Égypte, le peuple hébreu. Il y a eu la mort des premiers-nés. Dieu a exécuté les premiers-nés égyptiens, c'était la dernière des 10 plaies. Et il a dit aux Hébreux de mettre du sang d'un sacrifice qu'ils venaient de faire sur le linteau pour que Dieu reconnaisse les maisons des Hébreux.
Oui, d'accord.
Des maisons des Égyptiens. Et donc il a sauté les maisons des Hébreux pour ne pas tuer les premiers-nés hébreux. Et donc le soir, il y a la mort des premiers-nés. Et vers 5h du matin, le pharaon est vaincu. Et donc, il dit aux Hébreux de sortir. Il les met dehors d'Égypte. Et donc, on célèbre la sortie d'Égypte. Donc, c'est la fête de Pessah. C'est pour ça qu'il y a le nom Pessah par rapport à ça. Après, le sacrifice, il a pris ce nom aussi, le sacrifice de Pessah.
D'accord. Et d'où, tout à l'heure, tu disais que...
La
matza, c'est lié à...
Donc la matza, c'est lié à ça aussi.
Oui,
Il y a deux raisons que la Torah elle nous donne. Première raison, comme on a dit, c'est le pain du pauvre, parce que c'est un pain où il n'y a rien, il n'y a que de l'eau et de la farine qui n'a même pas gonflé. Et c'est pour se souvenir des 110 ans d'esclavage, une centaine d'années d'esclavage. On a été pauvre, on a souffert, donc pour se souvenir de cette pauvreté, de cette souffrance, on mange du pain pauvre. Et deuxième raison, c'est lié au soir même de la sortie d'Égypte. Donc, Dieu a dit à travers Moïse, a dit aux Hébreux de se préparer à la sortie d'Égypte. Mais finalement, le soir même, quand il y a la mort des premiers-nés, Pharaon est paniqué et il demande aux Juifs et tous les Égyptiens avec lui de partir tout de suite. Il leur dit sortez tout de suite, je ne vous laisse pas une seconde de plus en Égypte. Et donc, du coup, ils étaient très pressés. Mais il fallait préparer à manger pour la route. Ils savaient qu'ils allaient avoir de la route, donc ils ont mis le pain à cuire. Il n'y a pas eu le temps de gonfler. Ils ont tout pris. Ce qui est sorti, c'était des galettes. Et donc, ils ont pris la route avec des galettes, en souvenir de ça, en souvenir de ce moment de où on est sorti comme ça très très rapidement. On mange des galettes le soir de la sortie d'Égypte.
Eh ben, dites donc. Et tout ça, c'est resté des...
Depuis 3000 ans.
Depuis 3000 ans, c'est toujours ça, et c'est toujours célébré.
De la même manière, parce que c'est écrit dans la Torah. Hein, donc c'est vraiment.
Il y a une recette spéciale pour ce pain-là ou...
Oui, sûrement. De la farine et de l'eau.
De la farine.
Voilà.
Et
la mettre au four tout de suite.
Alors là, je vais. Oui, Mohamed, vas-y.
Se rebondir un peu dessus.
Enfin, ouais, parce que je sentais que Mohamed, il avait des choses à dire. Non, mais, vas-y, allez, lâche-toi.
On est les derniers arrivés, donc forcément, on intègre un peu.
Les deux dimensions.
C'est les deux dimensions là. Donc, bon, déjà, vraiment deux minutes, en parlant du ramadan, donc dans un verset, on nous dit que, vous les croyants, nous avons prescrit le jeûne comme il a été prescrit au peuple précédent. Donc, d'après les historiens, bon, nos historiens à nous, bien entendu, hein, avec le respect des divergences, parce que sinon, ils vont me taper dessus. Non, je plaisante. Et donc, il remonte le premier ramadan, entre guillemets, à Noé. Donc, quand il est sorti de l'arche, il a fait le ramadan. Donc, le ramadan, ramad, ça vient de la chaleur. Bon, ça brûle les graisses, hein, ça on sait. Et ça brûle aussi les péchés, en fait, pour les... pour les transformer en bonne action. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Et alors, pour rebondir, nous avons, nous musulmans, la profonde conviction que d'autres, les autres prophètes, etc., les autres livres, gens du livre, on va dire, qui, donc, bien entendu, le catholique, donc les chrétiens, et peut-être les juifs aussi, nous avons. Voilà, d'après nos historiens, d'après les explications coraniques, voilà, il y avait aussi un certain jeûne qui était présent. Voilà. Par exemple, comme j'avais déjà expliqué la dernière fois pour Marie, quand elle a jeûné, chez nous, en tout cas, elle a fait le jeûne de la parole aussi. Je crois que ça s'appelle le vœu de silence, quelque chose comme ça, chez vous, non, je sais pas. Aujourd'hui, si c'est encore resté.
Nous, c'est pas voilà. Notre tradition. Dans la tradition chrétienne, on n'a pas ce passage où la Vierge Marie au fait vœu de silence.
Voilà. Mais donc, c'est présent chez nous. Beau, et ensuite, pour Pâques, Pessah, et bien les musulmans aussi, ils jeûnent de manière supplémentaire, surérogatoire, pour célébrer justement la délivrance de Moïse, donc Moussa, des griffes, il faut le dire, de Pharaon. Donc le prophète nous a conseillé de le faire, et même quand on le fait, il y a une année de péché qui est effacée. Donc voilà, donc beaucoup de bénéfices. D'ailleurs, petite anecdote, les juifs de Médine à l'époque, parce qu'il y en avait, donc ils jeûnaient aussi ce jour-là. Voilà. Donc,
après, il y a un jeûne juste avant Pessah,
oui.
Donc la veille de Pessah, on appelle ça le jeûne des premiers-nés.
D'accord.
En fait, tous les premiers-nés,
ouais.
Parce que quelque part, ils auraient pu aussi être exécutés avec les premiers-nés égyptiens.
Mm-hmm.
Donc, en souvenir et en remerciement à Dieu qu'ils ont été, en hommage qu'ils ont été sauvés, ils doivent faire un jeûne donc la veille de Pessah. Mais finalement, c'est vrai que s'ils font le jeûne, après ils vont être fatigués pour le soir pour la fête.
Oui.
Donc essaye de trouver une manière
le
de compensation. Pour éviter de faire le jeûne. Après, il y a plein d'autres jeûnes dans le judaïsme durant l'année. Voilà.
Ouais,
mais
juste une petite parenthèse pour faire un peu le.
Ouais, pour faire un petit peu le lien, on va dire entre les trois. Là, je vais parler à Mohamed concernant un événement qui est reconnu et suivi dans le monde entier par c'est le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage.
Voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai fait un petit.
Un petit papier.
Qui retrace un peu. Bon, c'est 5 jours, c'est un peu compliqué.
Oui,
bon, alors, je pense qu'on n'a pas pu sortir en couleur, mais bon, c'est plus joli en couleur.
Moi, ce que je voudrais savoir,
oui.
Pourquoi il y a ce pèlerinage? Pourquoi vous le faites? Quand est-ce qu'il commence? Parce que comme c'est lunaire, il est décalé
tous les ans.
Ouais. Et quelle est sa signification? Pourquoi tous les ans, tous les musulmans, enfin ceux qui le peuvent, bien sûr, parce que il me semble que c'est obligatoire. C'est obligatoire pour les musulmans dans leur vie de faire au moins une fois le pèlerinage. Pourquoi il existe et pourquoi vous y allez?
Déjà, le pèlerinage à la Mecque, il est obligatoire pour ceux qui en ont les moyens. Hein. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est abusé. Hein. C'est 10 000 euros, 12 000 euros, 15 000 euros. Ah oui, oui. Ah,
donc, c'est cher. C'est tous les ans
Non, c'est pas tous les ans, c'est une fois dans la vie. D'accord. Dans sa vie.
Mais c'est tout le monde va au même moment ou je vais quand je veux? Oui, dans l'année.
Non, c'est là. C'est à partir.
Ah, c'est maintenant. C'est...
Voilà, c'est
à toujours après le ramadan.
C'est le dernier mois de l'année islamique. D'accord. C'est le mois de Zulhijja. D'ailleurs, Zulhijja, Hajj. Donc, voilà.
D'accord, okay.
Donc il faut y être, en tout cas, à partir d'une certaine date. Sinon, ça compte pas. Hein, donc. Si j'arrive 10 jours après, je veux faire le hajj, j'en peux plus. Parce que c'est vraiment
si
des dates précises, ouais. C'est 5 jours précis.
C'est pour ça que c'est très cher, parce que tout le monde va aller au même moment.
Oui. Après, bon, je sais pas, peut-être.
Parce que quelqu'un fait un pèlerinage dans un autre mois de l'année.
Donc, ça, c'est le petit pèlerinage. D'accord. Il n'est pas obligatoire. Mais le grand pèlerinage, il est à cette date précise et à ce moment-là. Voilà. Donc,
cette année, ça va tomber quand alors?
Là, on est en quel mois? Je pense au mois de juin.
Avril, mais.
Ça va être au mois de juin, je crois que c'est deux mois et demi après la fin du ramadan.
C'est
hein.
ça.
Ouais.
C'est ça.
Et donc, les gens, ils arrivent où? Après, ils vont où? Combien de temps ça dure?
Donc, ça dure 5 jours. Donc, il y a plusieurs obligations d'après les écoles. Bon, on va pas rentrer dans la jurisprudence.
On va faire simple, on va aller.
Voilà, donc on arrive à la Mecque, on fait le petit pèlerinage. Donc, on se met dans un état, c'est l'état de sacralisation. Donc, j'avais vu qu'il y avait une question sur l'égalité des hommes. Donc, tout le monde est avec deux draps blancs. Donc, le haut blanc et le bas blanc. Rien, pas de sous-vêtements, rien. Pas rien de cousu, en fait, tout simplement. Donc, on arrive là-bas, tout le monde, qu'on soit riche, pauvre, blanc, noir, rouge, vert, jaune, bon. Ouais, tout le monde est au même piédestal et il sera habillé de cette manière-là. Donc, pendant toute la période du Hajj, d'ailleurs, c'est un des rares moments où on va voir que même les imams, donc ceux qui dirigent la prière, seront dans cet état-là. Donc, avec deux morceaux de tissu, finalement, ça s'appelle le ihram en fait. Donc, voilà. Et bon, il y a des choses à faire, à ne pas faire, ne pas se parfumer, etc., etc. Bon, c'est un état assez sacré, sacralisation. Donc voilà. Donc on va faire la circambulation. Bon, c'est un peu compliqué le mot, le tawaf. Voilà, tourner autour de la Kaaba, tout simplement. Le mot français compliqué. Donc tourner autour de la Kaaba, la grosse. Boîte noire là, hein, je sais pas si vous voyez. Donc c'est la maison d'Abraham. Abraham, on y reviendra. Je sais pas si on a le temps, mais bon, c'est un prophète qui est en commun. Donc ensuite le Sa'i, c'est-à-dire marcher entre deux monts, Safa Marwa. Donc c'était deux monts vraiment avant. Aujourd'hui c'est du marbre. Bon, c'est climatisé, tout ça. Bon, comme on dit, ma fille, hein. Donc ouais. C'est super. Donc c'est un aller, un retour. Donc ça représente la maman de Ismaël. Ismaël, qui est parti chercher de l'eau pour son fils. Donc, Dieu a tellement aimé Allah, donc, bon, dans la religion musulmane, donc c'est Allah, il a tellement aimé cette action qu'il a fait entrer dans cette tradition, dans le tawaf,
ouais.
etc.
Ouais, donc.
Donc, il y a plein de choses à faire, donc il y a Sari, Mina, etc.
Pourquoi on le fait finalement? Parce que là, tu nous expliquais ce qu'on y fait, qu'est-ce qui s'y passe. Mais pourquoi on le fait ce hajj là?
Mais c'est une obligation, tout simplement. Et c'est pour,
ça vient d'où? Pourquoi on va là-bas?
Mais en fait, c'est pour se rapprocher de Dieu, tout simplement. Mm-hmm. Et surtout, pour commémorer justement ce sacrifice d'Abraham, hein, finalement. Donc, Ibrahim, qui est toujours l'ami d'Allah, hein, l'ami de Dieu. Mmh. Et lui, c'est vraiment sa caractéristique principale, c'est le tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Quand Dieu lui disait quelque chose, il n'y a pas de discussion.
Est-ce que tu n'es pas aussi pour rendre visite à la tombe du prophète qui est pas très loin? Il y a beaucoup de...
Mais la tombe du prophète, elle est à Médine. Oui. Elle ne fait pas partie des rites du Hajj.
Ah, d'accord.
Effectivement, quand on va en Arabie, voilà, il faut y aller. visiter la tombe du prophète. Mais en soi, juridiquement parlant, si on n'y va pas, ton hajj va compter. Mais bon, on est déjà là-bas. Bien sûr qu'il faut
y
aller.
J'ai une petite question. Oui, tu l'as fait moi-même ?
Non, je ne l'ai pas fait encore.
Pas encore, alors.
Pas encore. Mais...
il y pense.
Non, l'année prochaine, parce que là, les enfants sont très petits. C'est très compliqué.
Tu y vas avec les enfants enfin, les...
Non, non, non. C'est sans les enfants. C'est sans les enfants, justement. Donc,
sans
c'est
les
ça,
enfants
le problème,
et sans les... l'épouse aussi.
Si, l'épouse aussi. D'accord. Ah oui, d'ailleurs, l'épouse... En tout cas, juridiquement parlant, il faut qu'elle soit accompagnée d'un mahram, c'est-à-dire quelqu'un, son mari ou bien quelqu'un avec lequel elle ne peut pas se marier, hein, donc quelqu'un de sa famille proche. Voilà.
Et puis, à la fin, on a, je crois que c'est à la fin du Hajj, à la fin du pèlerinage, on a ce qu'on appelle l'Aïd al-Adha.
L'Aïd al-Adha, l'Aïd al-Kabir, donc c'est pas la fin du pèlerinage. Hein, dans le pèlerinage, ça fait partie d'un des rites, mais c'est pas le dernier vraiment. Hein, c'est vraiment on est au milieu à peu près. Mais à la Réunion, en tout cas ou dans le monde entier, c'est l'Aïd al-Adha, 3 jours, 10, 11, 12 Zulhijja. Donc ça commémore le sacrifice d'Abraham. Sacrifice d'Abraham, je sais pas s'il est présent dans vos traditions respectives.
Bien sûr, il y a le sacrifice de. Ouais. Abraham qui a failli sacrifier de son fils.
C'est ça,
oui,
voilà.
Oui. Donc, ça, c'est il a failli, finalement, il ne l'a pas fait. Mais...
Oui. Voilà, enfin, en fait.
Oui, on partage le même, la même tradition, mais nous ne fêtons pas ce sacrifice-là. Mais
Donc voilà, donc il a vu en rêve qu'il sacrifiait son garçon, vu qu'il a eu son garçon très tard, c'était quelque chose. Bon, après, c'est son enfant, hein, bien entendu. Mais comme on dit, avec lui, il n'y avait pas. On réfléchit, oui ou non, non, c'est Dieu, il a dit, voilà. Et donc, et même son garçon, c'était quelqu'un de pieux, d'exceptionnel, il n'a pas discuté non plus, alors que nous, hein, nous-mêmes, moi-même, hein, j'étais toujours sur le premier, oui, mais on va me couper, qu'est-ce qui se passe pour moi, donc, voilà, donc ça, c'était vraiment une piété exceptionnelle. Donc, le couteau est passé, mais bon, il n'a pas marché. Donc, ils ont fait descendre un mouton et c'est le mouton qu'on sacrifie. En tout cas, nous, à La Réunion, on est des grands amateurs de bœufs. Hein, à La Réunion. Voilà.
Donc, de bœufs, cabri.
C'est vraiment le salon de l'agriculture.
Il y a beaucoup
hein,
de Réunionnais qui vont en Arabie Saoudite tous les ans ou...
Oui, 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 bien sûr.
Des groupes.
Oui, il y en a beaucoup. Et justement, il faut déjà en avoir les moyens. Et aussi que ça corresponde avec un certain calendrier pour certains. Mais en tout cas, tout le monde fait l'effort. Moi-même, par exemple, je suis déjà parti au petit pèlerinage, ça compte pas, hein, mais bon. Mais j'ai pas eu l'occasion. En fin de compte, le Hajj, c'est vraiment soi-même économiser pour y aller. Si quelqu'un paye pour toi, c'est un peu de la triche. Hein, donc, mais vraiment, si on économise, on peut le faire, ça va compter. Mais vraiment, le but, c'est d'économiser soi-même. Et d'y aller avec son propre argent, enfin, faire soi-même son sacrifice. Voilà.
Donc là, ce qu'on a eu en commun, c'est Pâques, Pessah. Mais bien que Pessah, vous aussi, c'est décalé, il me semble. C'est pas toujours à la même période. Parce que là, on est tombés tous les trois en même temps. Le mois de Ramadan, on a eu le carême et on a eu Pessah. Mais dans les années qui vont venir, ça risque pas de retomber.
Si Pâques et Pessah tombent à chaque fois, toujours à quelques jours près. Parce que quoi qu'il arrive, Pessah tombe en avril. Ouais. Après, ça peut être au début, milieu, fin avril, fin mars. Mais ça tombe toujours à quelques jours près.
Ah, vous tombez toujours en même temps, ou à peu près, ouais.
Quasiment. Enfin, le Ramadan, par contre, après, ça change.
Oui, oui, parce que
ça décale de 10 jours.
Il varie selon le mois lunaire. Donc, un jour, on vous verra tous les deux célébrer.
C'est arrivé, je crois, l'année dernière, ou il y a 2 ans, c'était tombé le même jour.
Ouais.
En même temps.
Et est-ce que vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui descendait spécialement pour vous ou bien...
Tout le temps.
Tout le temps.
La baraka.
Oui, ouais. c'est vraiment, ce sont des événements. Donc là, tu m'avais dit qu'il y avait encore 2 autres grandes fêtes que vous allez préparer. Ça...
Bah, en fait, il y a Shavuot, ça tombe toujours, enfin, c'est 49 jours après la sortie d'Égypte. Parce que les Hébreux sont sortis d'Égypte, et 49 jours après, le 50e jour, on a reçu la Torah sur le mont Sinaï, les 10 commandements.
Les 10 commandements.
Donc
d'accord.
C'est une suite. Voilà, il y a 49 jours entre les deux où il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. Après, ils ont été un peu dans le désert pendant 49 jours. Ils se sont préparés. Le 50e jour, c'est Shavuot. Et ça correspond à la Pentecôte.
À la Pentecôte pour nous. Voilà,
à peu près.
La Pentecôte.
même date.
Donc finalement, vous deux, vous suivez pas mal, quoi. C'est...
christianisme.
Mais, alors, vous, vous fêtez l'an 5000, 6000, vous êtes à combien, là? Alors, parce que je sais plus, du coup.
Par rapport à la création du monde, on est en l'an 5785.
Ouais,
voilà. C'est assez précis.
Après, par rapport, à la sortie d'Égypte et les 10 commandements, donc le peuple hébreu en tant que religion, c'était en 2448 où on est sorti d'Égypte, donc il y a 3500 ans à peu près, 3300 et quelques, où on a reçu, on est sorti d'Égypte, on a reçu les 10 commandements.
D'accord. Il y a le calendrier d'Adam, c'est ça?
Calendrier d'Adam, c'est 5785, ouais.
Ah bon?
C'est
ouais,
ça.
Vous suivez le calendrier d'Adam.
Incroyable.
Par rapport aux années, ouais, on regarde le jour où Adam a été créé. C'est le premier jour de.
Vous êtes en 1430.
Premier jour de l'année, c'est le jour où Adam a été créé.
C'est ouais. ça. Mais nous, de toute façon, c'est quand le prophète il a quitté la Mecque, hein, donc c'est ouais. l'Hégire. Donc,
c'est l'Hégire.
1400.
Quelque chose. Mais par rapport à la création d'Adam, vous êtes sur le même calendrier du coup ou...
Mais nous, on n'a pas ce calendrier. Ouais. Non, nous, on n'a pas. On n'a pas le calendrier.
1436, 37, 35, je ne sais plus.
Non, un petit peu plus, quand même. 1447.
1447, voilà. Ouais. Et vous, vous êtes en 2000.
1446.
Et vous, les catholiques, c'est là. 46. Vous êtes en 2025. 2025 voilà. Ah ouais, comme quoi. On a le même Dieu. On n'a pas tout à fait les mêmes pratiques, voire pas du tout. Mais toujours est-il que là, ce qui nous réunit encore aujourd'hui, c'est. Le partage qu'on peut avoir les uns envers les autres. Hein. Donc je vous remercie encore vraiment d'être venu.
Merci à vous, merci à tous.
Et on se reverra sûrement parce qu'il y aura encore 9 jours, on se reverra pour parler de ça. Et la Pentecôte, hein, donc vous viendrez tous les deux nous parler de la Pentecôte. Et puis Mohamed, on se reverra après le Hajj. Hein,
oui,
je pense, hein, comme ça on reparlera de ça, voir combien d'animaux tu as coupé dans ta cour, etc. Voilà. Donc ce sont des événements vraiment qui font partie de notre quotidien à la Réunion, parce qu'on partage, parce qu'on s'aime les uns les autres, on se fait des petits câlins de temps en temps, sans être aller plus loin. Mais voilà, on apprécie vraiment.
On se fait des croche-pieds aussi.
Voilà, aussi, ça peut arriver. Donc vraiment, je vous remercie vraiment. Vraiment du fond du cœur, comme on dit, hein, c'est d'être venu aujourd'hui, d'avoir partagé tout votre savoir et vos religions. Mon père, bonne messe pour ce soir, je crois qu'il y a une grande...
Là, j'ai une messe à 11h30, puis la messe paroissiale. Et
oui.
Puis ce soir,
oui.
Nous avons une messe de requiem, c'est-à-dire de prière pour le pape François ce soir à 18h30 à l'église du Chaudron.
D'accord, donc voilà. Nous invitons tous nos auditeurs et auditrices à aller à cette messe. Et nous, si on peut y être, bon, on va passer faire un tour. Hein.
Oui,
ça va dépendre des obligations de chacun. Oui. Et donc, demain, c'est l'enterrement du pape.
À 10h, heure de Rome, donc midi ici.
Midi ici. Donc,
ce sera diffusé.
Ce sera diffusé ailleurs. Et,
d'ailleurs, nos condoléances à toute la communauté.
Catholique, hein, et puis
j'ai fait un petit communiqué d'ailleurs.
Oui, merci.
Je sais pas si vous avez reçu.
Si, très bien.
Merci à vous trois d'être venus. Je vous souhaite un bon week-end parce qu'on est déjà vendredi. Moi, je suis au week-end depuis hier, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Merci à tous.
Shabbat
merci
ce soir.
Shabbat qui va commencer ce soir pour toi. Et Shabbat demain. Et puis à la prochaine fois. Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Bon week-end.
Au revoir, merci.